assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Le protestantisme n'est pas structuré hiérarchiquement, mais cela n'empêche pas les relations entre protestants de beaucoup de pays. On pourrait même dire que cela les amplifie. Mon exemple de ce jour, deux jeunes Allemands rencontrés au culte à Maguelone et qui ont accepté de témoigner de leurs engagements. Bonjour Noah.
Bonjour.
Bonjour Elia.
Bonjour.
Alors d'abord, vous avez des prénoms bibliques. Vous venez de famille...
Oui, c'est vrai. Notre père a travaillé comme pasteur. Et oui, c'est ça. Aussi, nous avons trois petits frères et sœurs et ils ont la même, beaucoup de noms bibliques.
D'accord. Alors, on va commencer par Noah. Donc, vous avez eu une... d'abord, vous êtes fils donc de pasteur, donc une éducation religieuse, déjà au départ.
Ah oui, vraiment. Ça commence dans un petit âge. Et je pense que notre famille et son étaient très religieuses aussi pour, en Allemagne, quand même, c'est plus religieux que la moyenne et la majorité. Et oui, quand on était petit, on doit apprendre beaucoup de chansons ou de prier.
Vous connaissez bien l'histoire biblique.
Ah oui, aussi.
D'accord.
Toute l'histoire. Ah, pas toute.
Non, mais enfin, une grande partie. Et vous aussi, pareil, évidemment.
Oui, il y a aussi des textes comme les petits catéchismes de Martin Luther.
Ouais.
On doit l'apprendre par cœur.
De Martin Luther, donc. Oui. D'accord. Bon, et alors, donc une enfance protestante, et donc Noah, vous faites des études d'agriculture.
Oui, maintenant je fais les études des agricultures, mais oui, en Allemagne, j'ai aussi fait un peu de théologie,
ouais.
Oui, comme une deuxième sujet.
Et alors, pourquoi l'agriculture ?
C'était mon grand-père, il a fait l'agriculture et parfois il a parlé un peu et j'étais fascinant de le chemin, comment il a parlé sur l'agriculture. J'aime beaucoup dans l'agriculture qu'il y a beaucoup de facteurs et tout vient ensemble pour faire quelque chose de très pratique et très, oui, très, il reste vraiment au sol de cette terre-là.
Et donc, vous êtes en France, là, actuellement, pour faire des études d'agriculture.
Oui, c'est ça. Je suis ici à l'Institut Agro, à Montpellier, et je fais les études, et j'aime beaucoup.
C'est pas trop difficile avec la langue?
C'est très difficile. Peut-être que je comprends la moitié.
Bon.
Mais quand même, la moitié, c'est très bien.
Bon, ben, c'est déjà ça. Alors, Elia, vous, c'est des études de théologie.
Oui, c'est vrai. Mais mon chemin sur la théologie n'était pas droit. J'ai fait une année volontaire et libre après l'école. Et après, mon relation avec la théologie était un peu ambivalente. Mais maintenant, j'ai compris que les dernières années d'étudier, c'était vraiment un process de... un peu à conquérir.
De conquérir,
oui.
Ouais.
Des différents sujets de la théologie, un après l'autre. Et j'aime beaucoup à jeter un regard bec.
Jeter un regard.
Oui, sur cette année, parce que c'est vraiment... Je peux dire, ah, ici, j'ai trouvé la zootériologie avec cette course. Et ici, c'est la pneumatologie avec... un cours sur la pentaconte.
Un cours?
Oui, un cours sur la pentacontisme. Pentecostal.
Pentecôtisme.
Pentecôtisme, oui.
D'accord.
C'est ça.
D'accord. Oui, parce qu'il faut préciser, vous êtes à la faculté de théologie protestante de Montpellier.
Oui, c'est ça. Oui.
Et donc, pareil, par Erasmus, par comment ça se passe?
Oui, c'est le même programme. D'abord, j'ai fait aussi une exchange Erasmus à Copenhague.
Mmh.
Oui, mais maintenant, c'est Noah et moi qui voulons habiter ensemble, donc...
En France.
En France, oui. Et on a trouvé qu'il y a notre deux facultés à une relation Erasmus avec Montpellier, donc c'était super et nous sommes ici.
D'accord. Alors, on va revenir sur l'agriculture. L'agriculture, donc, vous avez dit que ça vous intéressait parce que ça permettait d'avoir une, comment dirais-je, moi, si j'ai bien compris, quelque chose d'ensemble, quelque chose qui englobait.
Ah, oui.
Il y a un rapport avec la création.
Oui.
Est-ce
oui.
que vous pouvez expliquer cette notion de responsabilité envers la création?
J'aime beaucoup cette question en ce moment-là, parce que en ce moment, je travaille à un plus grand travail. C'est en fait pour mon université à Bonn, mais je fais ici avec des professeurs d'ici. Et c'est sur une topic, c'est agroécologie, et c'est un concept... développé sur les années avant, beaucoup dans le sud d'Amérique, mais aussi de tout le monde. Et c'est vraiment un concept sur comment les différents aspects d'agriculture et aussi les différents aspects des sociaux et culturels, comment ils viennent ensemble pour créer un système alimentaire. Et pour moi, c'est vraiment aussi très, très proche de théologie et de cette pensée de la création. Et que peut-être aussi, oui, le Dieu, il a fait tout dans une manière bien. Et oui, on doit essayer là-bas de trouver comment tous les différents aspects créent les synergies.
Les scénarios.
Les synergies.
Ah, les énergies, pardon. D'accord. Justement, on a eu une émission avec Paul Moustier, qui est responsable au CIRAD, donc qui s'occupe d'agriculture avec les rapports Nord-Sud, etc. Et on l'a eu il n'y a pas très longtemps, et donc ça me rappelle cette discussion qu'on a eue. Mais justement, elle disait que ce n'était pas facile, en tant que scientifique, en France, de pouvoir vraiment dialoguer sur l'aspect religieux tel que vous l'avez évoqué. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile ou même impossible de parler avec des collègues étudiants ou avec des professeurs? Est-ce que cet aspect de la création est totalement interdit?
Oui, c'est un peu difficile, oui. Et pour moi... Quand je parle avec les autres étudiants ou avec les professeurs sur mon topic. Sur mon sujet, oui, merci. Normalement, j'ai essayé d'éviter un peu d'utiliser le mot comme création. Peut-être j'ai trouvé un autre mot qui peut-être semble un peu plus professionnel. Donc vraiment, c'est vrai. Et je pense que c'est... Mais je pense qu'il y a d'autres mots qui peut-être dire un peu la même chose, on peut utiliser. Et aussi, si on parle directement sur création ou sur Dieu, ça approche quand même le même sujet.
Vous prenez des chemins un peu détournés,
oui.
Et notamment au niveau du langage.
Oui.
Alors, maintenant pour... Oui?
Oui, j'ai aussi une... Ce que je trouve intéressant sur le site campus des ITP, où nous deux habitons.
Alors, sur le site du...
Du campus universitaire...
Au centre universitaire protestant.
Oui, oui,
vous
c'est
êtes
ça.
Tous les deux au centre universitaire protestant,
oui.
De la fac de Théo, d'accord?
Oui, et là-bas, un de nos copains a un projet pour combiner la théologie avec les vignes.
Oui.
Donc ça, c'est il y a une connexion aussi très très vieille avec les deux et ça nous sommes un peu involvés et c'est très intéressant.
D'accord. Alors on va venir maintenant avec vous sur la théologie. Vous avez dit tout à l'heure que votre chemin n'avait pas été un chemin tout droit vis-à-vis de la théologie. Donc il y a eu des hésitations, il y a eu des doutes, des problèmes, ce qui d'ailleurs est très protestant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ces problèmes que vous avez rencontrés et comment vous les avez surmontés?
Oui. Donc, comme j'ai dit, nous sommes grandis d'une maison chrétienne avec notre père qui a travaillé comme pasteur. Mais à mon avis, c'était jamais très clos. C'était toujours ouvert. J'ai pas des sentiments fermés.
Ouais.
Mais quand même, je pense que la religion, c'est quelque chose un peu pré-réflexive.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, je sais pas exactement, mais en ce moment, j'ai un cours sur la psychoanalyse et je pense que là-bas, on a beaucoup les racines sont des histoires bibliques,
ouais,
ou des histoires juives, donc,
ouais,
ou des mythes grecs, donc beaucoup des histoires. Et là-bas, ils essayent de trouver quelque chose sur les textes qui est un peu caché. Et
ouais,
de même façon, je pense, les histoires bibliques ou le monde chrétien a caché des hégémonies et des choses comme
des
ça.
Des quoi, pardon?
Des
hégémonies.
Hégémonies, oui.
Ouais.
Des puissances un peu cachées.
Des puissances, des hégémonies,
donc,
oui.
Je pense, les études pour moi, c'est aussi j'essaie de déconstruire,
oui,
beaucoup la théologie. Et ça, ça m'aide beaucoup.
Ça doit se faire très bien à l'IPT à Montpellier.
Oui,
je pense que déconstruire,
oui, vraiment.
Ils savent bien faire ça pour justement dégager les aspects, les vieux aspects entre guillemets.
Mm-hmm.
Et parce que votre église en Allemagne, vous avez l'impression que c'était plus difficile à dégager, à nettoyer ces textes, ou est-ce que c'était déjà possible?
C'était possible. Aussi, notre église, ils travaillent, les pasteurs travaillent avec la même méthode comme à l'université. Donc, la méthode historique critique.
Ouais.
Oui. Donc, c'était aussi, il y a beaucoup de discours sur l'église ouverte. C'est, oui, les process, c'est très transparent. J'ai pas des sentiments que c'était mauvaise ou
que c'était différent.
Différent, oui.
Alors, on va venir sur... Vous avez parlé que vous vouliez venir en France. Alors, pourquoi la France? Alors, Noah, pourquoi vouloir venir en France?
Oh, un peu parce que Elia, il est ici. Et le deuxième, j'aime la langue, j'aime la France. Et j'aime aussi l'esthétique française.
L'esthétique. L'esthétique.
Oui.
D'accord.
Et les gens.
Ouais. Et alors, vous avez trouvé que la France était hospitalière, enfin qu'il y avait une importance de l'hospitalité dans des camps que vous avez fait ou des séjours d'église en France. Vous,
oui,
trouvez vraiment que les Français sont accueillants?
En ce cas, oui. Quand même, je dois dire un peu que c'est aussi pas toujours très facile de trouver une connexion avec les autres étudiants à mon université. Donc, je pense peut-être que c'est un peu les deux. Il y a l'hospitalité, mais oui.
Vous avez trouvé une différence entre l'hospitalité quand vous êtes avec des chrétiens en France, des chrétiens français, ou alors quand vous êtes dans d'autres milieux?
Ah oui.
Ouais.
Oui, c'est vraiment le cas. Mais je pense pour moi, c'était un peu la même expérience, tout le monde. C'est toujours un peu plus facile, on a une base en partagé. On trouve l'hospitalité, vraiment.
Et pour vous, c'est plus facile, Elia, puisque vous êtes dans un milieu protestant, c'est plus facile avec vos collègues français?
Oui et non, je pense.
Ah,
oui,
bon.
Ça aide beaucoup le protestantisme, donc
oui,
on sait qu'est-ce que les autres pensent plutôt. Quand même, sur la site campus, sur la site universitaire,
oui,
il y a vraiment le monde.
Il y a le monde, oui, entier,
oui,
à l'université protestante.
Oui, c'est ça. Beaucoup de mes collègues viennent de l'Afrique,
oui,
ou des autres pays. Donc, il y a des autres, peut-être, difficultés avec la...
Des façons de voir culturelles différentes.
Oui. Mais aussi, c'est aussi une... ça aide beaucoup pour ouvrir l'horizon.
Ouais.
Aussi pour la théologie. Oui. De temps en temps, ça me manque un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de cours sur la théologie interculturelle.
Ouais. Donc,
oui, mais peut-être à la future.
Dans le futur, peut-être. Le futur,
oui.
On va venir, on a parlé de la France, on va venir sur l'Europe. Alors, vous êtes apparemment très européen. Vous êtes... Pour la construction européenne, j'ai l'impression. Alors, je signale d'abord ici, au micro, que nous avons une émission qui s'appelle « L'Europe, Union et Désunion » de deux étudiants, donc un qui s'appelle Ulysse Gounel et l'autre Nathan Doudet, et qui font donc une émission sur l'Europe, sur la construction européenne, ce que peut en attendre et ce qu'on voudrait faire, surtout quand on est jeune, puisqu'il s'agit de jeunes. Alors, la perspective européenne, comment vous la voyez au niveau où vous êtes, Noah ?
Encore des questions. Comment ?
Comment la perspective européenne, par rapport justement à votre expérience de vie religieuse et aussi l'agriculture, pourquoi pas ?
Ok, oui, je peux pas sur l'agriculture, c'est plus facile. Je pense que l'Union européenne c'est très important pour la politique européenne. Et je pense que c'est bien quand même. C'est aussi toujours très important de voir de voir aussi les circonstances environnemental, mais aussi social et culturel, toujours dans un petit milieu. Et je pense que c'est difficile pour l'Europe, mais pas juste pour l'agriculture, mais aussi l'autre sujet qui est l'environnemental, sociaux, mais environnemental et culturel, c'est très différent. De Slovaquie ou d'Espagne. Mais j'aime beaucoup ce grand ton d'Europe et je pense que c'est important, mais quand même, les problématiques, ils sont locaux, mais quand même, ils sont globales aussi. Et c'est important d'avoir cette voix globale.
Et sur la théologie, Elias, l'Europe et la théologie, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer?
Pour la théologie, 50 années avant, tous les théologiens doivent apprendre l'allemand comme langue de la théologie. Et ça change maintenant. Bon, on a pris l'anglais plutôt ou quand même français. Il y a des petits lieux un peu différents. Mais je pense sur la théologie, c'est vraiment un phénomène qui est basé sur des pays.
Oui, nationaux.
Donc, sur notre course, on lit beaucoup de Martin Luther et des choses de la Réformation.
Ouais.
Ça m'aide parce que je peux lire en allemand.
Oui, bien sûr. Mais au niveau de la pratique ou au niveau du sentiment religieux européen, d'abord, est-ce qu'il y a une différence entre l'Allemagne et la France? Est-ce que vous avez constaté que, notamment les jeunes, puisque vous fréquentez surtout des jeunes, est-ce qu'ils avaient une différence d'appréciation par rapport à l'Europe et sur le problème religieux? Est-ce que ça peut apporter quelque chose?
Je n'ai pas sûr si j'ai compris la question.
Est-ce qu'il y a une différence pour les jeunes en Allemagne et les jeunes en France sur l'Europe, sur la façon de communiquer, notamment sur les problématiques théologiques? Est-ce qu'en Allemagne, on est plus européen qu'en France ou moins?
Je pense que c'est vraiment pareil.
Ah oui?
Oui. Oui. Avant, à Copenhague, ça c'était différent, je pense. Là-bas, les Danois étaient un peu plus, se sentir un peu plus scandinaviens, mais l'amitié franco-allemand, c'est, je pense, chez notre copain et copine, c'est plutôt un terme très important.
Il n'y a pas de remise en cause de l'Europe. Enfin, il y a moins de remise en cause qu'en France. Parce qu'en France, il y a des tas de gens, surtout en ce moment, qui, à cause de leurs problèmes de vie quotidienne ou de pouvoir d'achat, voudraient quitter l'Europe, ce qui serait une grave erreur selon moi et selon beaucoup de gens. Mais enfin, il y a un très fort sentiment anti-européen alimenté par l'extrême droite en France.
Oui.
Est-ce qu'en Allemagne, vous avez ça ?
On partageait cette, je veux dire, problème un peu. Oui, en Allemagne, c'est un peu aussi, c'est un peu différent de l'Ouest et l'Est.
Oui, c'est-à-dire que les Allemands de l'Est n'ont pas la même vision.
Pas la même histoire, vraiment, un peu.
Oui, pas la même histoire, bien sûr.
Je pense peut-être dans cette, il y a un peu de différence peut-être avec la France. L'histoire d'Allemagne, c'est c'est un peu différent de cette, vient ensemble. Mais je pense particulièrement les Allemands qui vivent proches de la France, ils sont plus pro-européennes.
Ouais.
Oui.
Il y a des remises en cause quand même au niveau politique, autant qu'en France, sur l'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment d'un risque de sortie de l'Europe de la part de l'Allemagne, par exemple ?
Je pense que l'Allemagne a profité beaucoup de l'Europe.
Donc, oui.
Oui, bien sûr, il y a des mouvements et c'est aussi une question des milieux et de beaucoup de facteurs, mais... En général, je pense, oui, l'Allemagne, c'est vraiment... Il y a quelques années qu'une politicien de la partie verte a parlé des États-Unis d'Europe.
Oui.
Oui, ça c'est, je pense, c'est sur la plupart des personnes, c'est vraiment une idée sur leur tête.
D'aller plus vers le fédéralisme européen.
Oui.
D'accord. Et donc, on va maintenant entrer dans la dernière partie de cet entretien. Votre rapport donc à la société, au protestantisme, tous les deux, qu'est-ce que vous voulez apporter au protestantisme ? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au protestantisme ? Alors, il y a déjà par l'agriculture, on a parlé d'agrarécologie. Bon, il faudra expliquer ça. Et puis dans le pastorat, donc on va voir ça. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter donc à la société française, allemande, européenne, au protestantisme? Donc, d'abord, on va commencer par Noah.
Ok. J'espère que mon réponse marche avec les questions, mais je vais essayer.
Ça fait rien. Si c'est une réponse qui n'a pas de rapport avec la question, mais que la réponse est intéressante, ça sera pas grave.
Oh oui, c'est bien. Je vais commencer avec l'Europe. Pour moi, c'était très important de participer beaucoup de fois dans différents programmes franco-allemands, spécialement, mais aussi dans d'autres pays. On habite proche de la frontière et là-bas, on a des échanges scolaires, des échanges avec le choral, des échanges avec un groupe de sport. Et c'était vraiment une très expérience importante pour moi de vivre cette relation franco-allemande.
Et au niveau donc de l'agriculture, de l'écologie, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter ? Quels sont les éléments ? D'abord, est-ce que vous pouvez mieux définir ce que vous faites ? Parce qu'on a parlé au niveau du rapport entre l'agriculture et la création, mais concrètement, donc on a parlé des énergies, on a parlé de... Mais est-ce qu'il y a une philosophie derrière ? Est-ce qu'il y a... quel est le but de cette agrarécologie ?
Oui.
C'est une question difficile.
Je peux... j'ai fait un stage à Zambie avec avec ce concept agroécologie. Et les personnes qui sont le directeur de cet institut, il a dit que c'est Farming God's Way.
Alors, en français,
c'est faire l'agriculture dans le chemin comme Dieu peut-être veut le faire. Oui, comme ça.
Oui, oui, c'est ça.
Oui, c'est je pense les idées derrière, c'est vraiment un peu de laisser l'espace pour toutes les relations les différents éléments et laisse l'espace pour développer pour la nature de développer toutes ces différentes relations.
Oui. Alors à la radio, nous avons 3 émissions sur l'écologie. Une qui s'appelle Où vivons-nous, qui est axée avec une association de Montpellier. Et puis nous en avons 2 qui sont plus axées religieuses, si on peut dire, puisque elles sont faites par des chrétiens. Il y en a une qui s'appelle Vertes et pas mûres, par une jeune qui s'occupe d'écologie et qui est en même temps dans une église évangélique. Donc une perspective extrêmement évangélique. Et puis une autre faite par le pasteur Didier Fievé qui s'appelle « Entre souffle et humus », qui est plus dans la théologie, disons, de l'EPUDF, donc théologie plus libérale, qui voit ce qui rapproche ces concepts d'écologie et de christianisme. Alors maintenant, Noah, votre rapport à la société, au protestantisme. D'abord, est-ce que vous voulez être pasteur ou est-ce que vous avez d'autres idées par derrière?
Beaucoup des idées. Trop. Trop. Oui.
On n'a jamais trop d'idées, on n'a jamais trop de projets. Jamais. C'est bien d'avoir beaucoup de projets.
Il y a ce blague, les pasteurs pensent qu'il est Dieu, mais Dieu ne pense pas qu'il est les pasteurs.
Donc c'est... Alors, j'ai pas compris, c'est une blague. Ah, oui. Alors, c'est quoi?
Que les pasteurs pensent qu'il est Dieu.
Mais... Ah, le pasteur pense qu'il est Dieu,
oui, mais même. Dieu pense pas qu'il est un pasteur.
D'accord.
Donc,
d'accord.
C'est aussi, il y a des conflits sur les boulots d'une pasteur et aussi la société vraiment change. Donc, je pense sur maintenant, on a vraiment la possibilité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui font la théologie en Allemagne, à construire une nouvelle église, une nouvelle profil du pasteur.
Ouais.
Et ça me plaît, oui. Mais en général, je suis pas sûr. Mais ce que je trouve bien sur à propos de la protestantisme européen, c'est je vais faire une découverte cette année. Un festival s'appelle Festival des Poussières. C'était à Goschen, près de Dijon, en août. Et là-bas, ils étaient des catholiques gauches, jeunes, et beaucoup des protestants. Et ça, je trouve vraiment intéressant qu'ils se nommaient eux-mêmes comme militantes, en beaucoup de manières. Et je pense là, on peut ouvrir les frontières parce que...
Ouvrir les frontières.
Ouvrir, oui, parce que il y a un peu la même... Le militantisme est un peu une possibilité à lier les chrétiens des différents pays européens. Ça, je trouve vraiment cool.
Eh bien, on va s'arrêter là-dessus, sur cette vision d'avenir du protestantisme européen et mondial, puisque de toute façon, le protestantisme a vocation, n'ayant pas de chef, à tisser des relations horizontales et non pas verticales. Et donc, je vous remercie beaucoup, Elia et Noah, d'être venus vous exprimer. C'est pas toujours facile pour vous de parler dans une langue, même si vous maniez très bien le français.
J'espère qu'on comprend quand même un peu.
Si. Moi, je vous ai compris.
Peut-être la moitié.
Et merci à nos auditeurs et à la prochaine fois. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Un protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.